L'actualité ne prend pas congé sur les ondes de Boulevard 102.1. 9h25 minutes. Je pense que ça vaut la peine de rappeler la météo parce qu'on arrive dans le crunch des réveillons de Noël demain. Alors pour aujourd'hui, c'est moins 9, possibilité d'averses de neige en fin de journée. Et prévoyez vos déplacements parce que il y a de la neige jeudi pour le réveillon, moins 6. Et neige intermittente le 25 avec moins 7. Alors faites attention sur les routes, prévoyez vos déplacements. Ça sera le retour du soleil moins 11 vendredi le 26 décembre.
Mais aujourd'hui, il fait vraiment beau à l'extérieur, donc les déplacements sont agréables. Par contre, petite glace noire sur le réseau routier. Faut dire qu'il y avait un incident sur Laurentienne Sud. C'était à la hauteur du poste de pesée, là, avant le boulevard Jean Talon. Le remorquage est en cours, là. C'était une panne. On a réussi à faire en sorte que ça se dégage, mesdames et messieurs. Je pense que si on se fie à ce qui s'est passé hier, ce sera capitale bouchée dans le coin de l'heure du lunch.
Vraiment. Tu vis-tu une période d'hyperactivité présentement?
Non, je fais un test.
OK, tu fais un test.
Moi, j'ai un rêve.
Tu marches sur place.
On a-tu le droit de parler de ça?
Ben, ah ouais, go, vas-y. Okay, là,
c'est sûr, on est le 23 décembre.
Exactement.
Là. Les
puis
boss
Éric
me mettront l'or après les fêtes.
C'est ça. Éric Ouellette va patienter deux secondes.
C'est pas grave que ça. Bye-bye, Pascal.
Monsieur Ouellette, on s'en vient, ce sera pas bien long.
Si ils mettent d'or, ils vont me mettre dehors. Ils vont dire, Caroline, on met d'or le duo. Fait que fais attention à ce que tu fais.
C'est juste que j'ai un rêve, puis je sais pas s'il est réalisable parce que là, vous m'entendez. Entendez-vous quelque chose dans ma voix?
Non,
un petit tapis de marche, là.
Ouais.
Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. On est
ça
toujours
t'énergiserait.
Assis. Ceux qui travaillent là, sur une chaise.
T'as remarqué, moi, j'anime debout, justement, parce que je suis pas capable d'être
assis
trop longtemps.
Moi, j'ai besoin de mon ordinateur pour faire les nouvelles, les choses comme ça au quotidien.
Quand je suis co-animateur le matin, c'est la même chose.
Et voilà.
Assis, j'ai pas le choix.
On fait du booking pendant qu'on parle. On n'a pas le choix, là. On est multitask.
Ben oui.
Mais j'ai vraiment un grand rêve de tapis de marche. Puis j'aimerais ça calculer combien de pas ça me donnerait de plus. Puis on avait un collègue ici qui en avait un, mais il travaillait pas en onde.
Exactement.
Je pense que ce serait peut-être bruyant.
Ben oui, si je me souviens du petit bruit que ça faisait. Mais avis à tous les inventeurs, s'il vous plaît, faites-en un non bruyant.
Ah, j'aimerais vraiment ça, honnêtement.
Comme ça, on pourrait travailler en marchant.
Mais peut-être que ça t'agresserait
de me deviendrait, voir. On deviendrait full en forme.
Mais
ça serait vraiment
c'est ça la santé.
Ben
c'est
oui,
par
c'est
des
ça la
petits
santé.
Gestes.
Oui, puis là, il faudrait avoir des bureaux qui peuvent se lever. Donc, moi, ici, comme animateur, il faudrait que la console
mais
puisse
se lever.
Mais ça serait
beaucoup mieux aussi pour notre dos.
Mais
parce qu'on est toujours penché.
T'as raison.
Il n'y a rien d'ergonomique dans notre travail. Tu sais, on parle, on en rit un peu, mais je pense que ça changerait beaucoup de choses. Puis notre énergie aussi.
Ben oui.
En tout cas, si vous avez la chance, faites-le.
En tout cas, il n'y a pas de doute, t'es énergique à l'heure actuelle.
Ben c'est ça. Je suis encore en test. Bon.
Je peux te le dire.
Je suis encore en test.
Tu nous commenterais l'actualité. Là.
Avec énergie.
Toi, t'es avec énergie.
Oui.
Ouais.
Si vous voulez voir Pascal qui marche dans le vide, ça se passe sur Twitch en ce moment.
Exactement. Twitch.tv.
Pas déconcentrer.
/BLVD/FM. Donc, t'as des... Fred qui nous écrit, le mien est assez silencieux. Fred, envoie-nous à Marc.
Il m'encourage, là.
On va envoyer ça au patron. On va dire, on veut les tapis.
Oui, je suis prête.
Ouais. Il y a des choses un petit peu moins roses et un petit peu moins drôles. Et c'est ce qui se passe au Venezuela à l'heure actuelle avec Donald Trump et l'armée américaine qui ne cesse d'empêcher des pétroliers d'atteindre les côtes du Venezuela. Et là, ça fait dire à Nicolas Maduro, le président de ce pays, « Hey, les États-Unis, Moscou et Poutine sont derrière moi. Gare à vous. » Pascal, ça sent pas bon.
Ben non, déjà, le président Trump essayait de courtiser Vladimir Poutine depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, pour l'avoir derrière lui ou avec lui. C'est jamais bon d'avoir Vladimir Poutine comme ennemi, mais en même temps, tu te poses des questions sur les valeurs occidentales versus celles de Moscou. Sauf que là, en attaquant, puis je vous rappelle une attaque très, 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 très particulière, controversée. C'était pas juste le navire qui avait été attaqué. Une fois qu'on avait démoli en partie le navire, on s'est assuré d'aller tuer les marins qui étaient
exactement.
À bord. Et encore là, on présumait que c'est parce que c'était des narcotrafiquants qui avaient de la drogue à l'intérieur des 10 navires, mais en étant sûr de rien. Donc, Donald Trump a attaqué en étant sûr de rien, puis ça crée des problèmes.
Oui, puis évidemment, en droit international, tu as le droit de te représenter devant la cour et de justement faire valoir tes arguments. On n'a pas le droit de tuer qui que ce soit comme ça au hasard.
Exact. Puis il est en train de changer des règles aussi. Il est en train de mettre des particularités de droit d'attaque. Mm-hmm. Le fentanyl qui a été qualifié d'arme de destruction massive aux États-Unis. Donc, ils donnent des droits d'attaquer encore plus à ce moment-là s'ils sont capables de trouver des traces de fentanyl à quelque part. Puis ce que je trouve d'autant plus important, puis qu'on va discuter avec notre invité,
oui.
C'est est-ce qu'on est dans l'ère de la guerre froide? Est-ce qu'on retourne dans une ère comme celle-ci?
Très inquiétant. Est-ce qu'il va y avoir le fameux téléphone rouge qui va revenir à la Maison-Blanche et au Kremlin? Il est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire Royal Canada. Éric Ouellet, comment vas-tu?
Ça va très bien. On profite de la période des fêtes.
Excellent. Éric, est-ce qu'on a fait une bonne mise en place du sujet qui touche le Venezuela, c'est-à-dire les États-Unis qui emmènent très large à l'heure actuelle?
Oui, mais il faut se rappeler que le Venezuela était la bête noire des Américains depuis de nombreuses années. Dès l'époque d'Obama, il y avait des difficultés. Donc, c'est la politique américaine, évidemment, un peu plus musclée sous M. Trump, mais elle n'est pas fondamentalement différente. Ils voyaient le Venezuela comme un risque parce qu'ils invitent les Chinois et les Russes à s'installer chez eux. Donc, d'un point de vue américain, c'est problématique.
Vous voulez dire que le Venezuela invite les Chinois et les Russes à venir s'installer sur leur territoire, donc c'est une alliance d'immigration aussi?
C'est surtout pour des questions de pétrole.
Pour l'exploitation des ressources.
Ouais, le Venezuela a vendu les droits d'exploitation du pétrole à la Chine. Et donc, ça donne un levier à la Chine, ça, en temps présent, plus des capacités de collecte de renseignements, parce que c'est pas très loin des États-Unis. C'est donc, les Américains sont pas très heureux avec ça.
Ah oui, ça, là-dessus, on peut comprendre. La Chine prend toutes les stratégies possibles, autant du côté de l'Afrique qu'ailleurs, effectivement, pour espionner ses potentiels ennemis. Par contre, ça rend pas les choses un peu contradictoires et ou difficiles à comprendre du fait que Vladimir Poutine est défendre le Venezuela quand Donald Trump en fait un peu son ennemi actuellement, du moins de son président. Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur le découpage politique ou dans les relations internationales de tout cela?
Ben écoutez, il faut faire un petit peu d'histoire ici très brièvement, mais les États-Unis considèrent l'hémisphère ouest, donc les Amériques, comme faisant partie de leur chasse gardée. Et la présence de puissances étrangères qui ont un pouvoir de plus en plus grand, c'est inacceptable. D'ailleurs, les États-Unis ont sorti leur politique de sécurité nationale qui parle de ça très directement. Ce que les Américains cherchent à voir, c'est surtout un changement de régime. Donc, Maduro et le gouvernement du Venezuela de partir et d'être remplacé par l'opposition qui aurait probablement gagné les élections si les élections n'avaient pas été truquées. Donc, c'est surtout ça qu'ils veulent et avoir un départ de la présence chinoise et russe et cubaine aussi, par extension, au Venezuela.
Mais Donald Trump courtise Vladimir Poutine en quelque sorte, de façon semi-subtile, mais il s'en fait pas justement un ennemi par ces actions-là pour la suite?
Ben écoutez, il y a souvent des marchandages qui existent là, en différentes grandes puissances. Mais le soutien russe, par exemple, au Venezuela, est surtout verbal et pas très réel. Et d'une part, si les Américains ont mis beaucoup de pression sur l'Ukraine pour accepter un traité de paix qui serait probablement pas très très juste pour l'Ukraine, ils peuvent négocier vous allez partir du Venezuela, ne supportez pas Maduro, parce que le soutien est plus verbal. Le véritable soutien technique et je dirais militaire pour le Venezuela, il vient de Cuba. C'est surtout eux qui le soutiennent.
On parlait tout à l'heure de remplacement justement du régime Maduro et c'est Maria Corina Machado qui a gagné justement le prix Nobel de la paix, qui est une alliée avouée de Donald Trump. Est-ce que les États-Unis, Eric, vont trop loin justement dans leurs actions au Venezuela et ça va venir ainsi noyer le poisson?
Je pense pas. Pour l'instant, là, ils mettent beaucoup de pression sur le régime, mais... oui, il y a eu des attaques et les trafiquants de drogue là, qui ont été tués par après, là, comme vous avez expliqué il y a quelques minutes. Mais il y a pas d'actions majeures qui ont été prises contre le régime. Il n'y a pas eu de bombardement d'aéroports, il n'y a pas eu d'attaques sur les navires de la marine de guerre vénézuélienne. Donc, pour l'instant, c'est vraiment surtout des pressions et ils espèrent voir Maduro... et bagages avec quelques centaines de millions de dollars qui a volé sa population et aller s'installer ailleurs pour remettre un gouvernement qui est plus favorable aux États-Unis, mais aussi plus favorable à à une démocratie libérale. Donc, on va voir si ça va fonctionner, mais c'est vraiment l'objectif américain.
Justement, qui sont les alliés des États-Unis dans ce combat avec le Venezuela? Est-ce qu'il y en a?
Pas beaucoup, mais je dirais que les États-Unis n'ont pas vraiment besoin d'alliés. Ils ont des alliés tacites parce que des pays comme la Colombie, le Brésil, eux aussi ont des difficultés avec les trafiquants de drogue, même si d'un point de vue politique, ils ne sont pas alliés avec les Américains, ou en tout cas l'administration Trump, ils ont des visions du monde assez différentes. Mais ils ont des intérêts qui sont similaires, c'est-à-dire d'écraser le trafic des trafiquants de drogue. Donc, dans ce sens-là, ils sont des alliés, je dirais, complicites et implicites, mais il y a un certain soutien à l'action américaine.
Ça reste problématique pour la suite des choses parce que quand même Donald Trump réclamait il y a quelques heures seulement qu'il serait beaucoup mieux pour Maduro de démissionner, de quitter son poste, qu'il serait sage même de le faire. C'est pas des menaces voilées?
C'est des menaces pas du tout voilées, c'est assez clair. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des opérations militaires américaines majeures au Venezuela. Il peut peut-être avoir des raids assez précis et courts sur certaines installations sur la côte. Peut-être certaines actions de CIA là, sous couvert,
mais c'est un peu un acte de guerre rendu là, malgré que ce soit pas si grand.
Vous savez, ça fait longtemps que ça existe, ce genre de choses-là. Ça peut être considéré comme un acte de guerre, mais les États-Unis n'iront pas en guerre directe contre le Venezuela, et le Venezuela, évidemment, ne déclarera pas la guerre aux États-Unis. Ils n'ont aucune chance là-dessus. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des opérations militaires majeures. Il va y avoir la pression, comme on voit en ce moment. Ils vont peut-être augmenter un peu la pression, mais je ne peux pas imaginer qu'il y ait une invasion majeure du Venezuela. D'ailleurs, ça prendrait des mois à préparer, ce serait très évident. C'est très compliqué de faire ce genre de choses-là.
Éric, pour terminer la chronique, je saute au dossier de l'Ukraine. Est-ce que tu vois poindre un plan de paix acceptable en 2026 où la Russie va gagner sur toute la ligne?
C'est une question à 1 million $, là, parce que les Américains veulent se désengager le plus tôt possible. Les Européens veulent remplacer les Américains, mais ils ne sont pas vraiment capables. Donc, il y a une difficulté importante ici. Et bien entendu, les Ukrainiens ne veulent pas donner la partie est du pays à la Russie sans qu'il y ait un compromis majeur de la part de la Russie. Donc, ça va être difficile. C'est assez difficile aussi à prédire comment ça va continuer. La guerre pourrait continuer pendant toute l'année. Et les forces ukrainiennes s'effriter de plus en plus, surtout si les Américains retirent leur soutien. Ça, c'est pendant le pire scénario. Le meilleur scénario, c'est que il y a un changement d'attitude américain, mettre un peu plus de pression sur les Russes, et que ça pourrait peut-être amener à de véritables négociations. Mais c'est 50-50.
Ultimement, est-ce que ce dossier-là pourrait être retiré des mains de Donald Trump et que ce soit plus l'Union européenne qui le gère?
Ben, en fait, Donald Trump préférait que l'Union européenne prenne vraiment l'initiative, une fois qu'il y aurait un traité quelconque, là, de soutenir l'Ukraine, de fournir des garanties très sérieuses à l'Ukraine, de trouver des manières de reconstruire l'Ukraine, là, peut-être avec les fonds russes qui sont gelés. Mais les Européens sont très divisés entre eux. Et il y a peu de volonté politique d'augmenter l'aide à l'Ukraine. Les pays de l'Union européenne aident beaucoup l'Ukraine déjà. Et politiquement, ce serait très difficile avant d'augmenter de façon considérable l'aide à l'Ukraine. Donc, il y a vraiment une difficulté importante ici. Mais Donald Trump serait bien heureux si les Européens prenaient le dossier en charge. Ça, c'est clair.
Éric Ouellet, on te souhaite de passer des joyeuses fêtes en 2025. Bon début d'année 2026. Au plaisir de se reparler prochainement.
Merci, vous en souhaite autant.
Excellent. Merci beaucoup, Éric Ouellet. Salut. C'était Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Quand tu trempes là-dedans, Pascal, c'est fou la différence de mentalité. Tu sais, Éric, lui, bon, oui, c'est passé au Venezuela, la CIA là-dedans, tout ça s'est toujours passé de même. Alors que nous, qui est complètement à l'extérieur, on fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce pays-là?
À quel point c'est dangereux pour l'identité de l'Occident? À quel point ça peut nous toucher, nous aussi, en tant que Canadiens? On se pose tous la question. Je pense que le point primordial là-dedans, c'est la limite. C'est des gens qui n'en ont pas.
Oui.
On a autant Vladimir Poutine avec la Russie, on a autant la Chine, on a autant Donald Trump, les États-Unis. On a... C'est des gens qui n'ont pas de limites. Le président américain n'est plus ce qu'il a déjà été, non, parce que c'est pas la même personne. Et il se coltaille pour une guerre économique d'abord et avant tout. L'humain n'est pas la priorité. L'accord n'est pas la priorité. On est actuellement dans des gens qui voient en amont la pénurie de ressources naturelles qu'on va vivre dans les prochaines décennies. Ils vont travailler en ce sens-là. Pourquoi le Venezuela est défendu par la Chine et la Russie, nous l'a très bien expliqué, par les ressources naturelles qu'on
trouve. Exactement.
Ce sera ça, l'épée Damoclès au-dessus de notre tête pour le Canada. On est conscient, entre autres, avec nos grands étendues d'eau, etc. Mais c'est là où ça va se passer, les balbutiements de ce qu'on peut voir en termes de limitations pour les prochaines années. Parce que ce ne sera pas en Afrique. La Chine y est déjà, a construit des hôpitaux, a construit
les
des écoles.
Les Russes aussi sont
les
déjà
Russes
dans
y sont
certains
déjà.
Pays.
Ils ont acheté leur dû.
Ouais.
Ils font vivre une autre vie à ces populations-là en échange de tout ce qui se trouve en termes de ressources naturelles. Nous, on n'aura pas ça au Canada. On n'aura pas des Russes, des Chinois qui vont venir ici pour nous donner des hôpitaux, pour nous donner des écoles. Ils vont venir par la force, c'est le cas de le faire.
Exactement. Ils vont tenter de s'approprier le Grand Nord. Évidemment, ça reste un dossier très périlleux avec la Russie. Et là, de voir Donald Trump travailler dans l'ombre comme ça, côte à côte avec Vladimir Poutine, là, je ne veux pas être prophète de ma mort.
Côte à côte et pas, parce que tu vois, ce qu'il disait, c'est que ça les divisait.
Mais n'empêche que le Canada vit présentement un tournant historique dans sa démocratie.
Absolument.
Et dans sa démocratie territoriale.
Puis j'ai pas eu beaucoup de la chance d'en parler. Mais quand je suis allée au Nunavik, une des premières journées où j'y étais, c'était un conseil de bande avec plein de chercheurs de plein d'universités qui se rassemblaient pour une journée ou deux complètes d'informations pour une mine. On voulait exploiter sur un territoire qui était semi-autochtone. En tout cas, la division, on n'embarquera pas là-dedans ce matin des territoires, mais si vous êtes un peu au courant, bon, c'est autant gouvernemental que pour les communautés, là où se trouve cette mine-là. Puis les communautés disaient, ouais, bien là, si vous venez faire cette exploitation minière-là, de tout ce qui est minéraux essentiels dans la technologie, et c'est une fourmilière en haut, ben nous, vous allez détruire un peu notre écosystème. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour pas trop le détruire? Mais de l'autre côté, tu as le gouvernement qui veut absolument les exploiter parce que c'est de même qu'on va prendre de l'avance. C'est comme ça qu'on se fera pas envahir, tiens, pour nos ressources naturelles. Là, je vais dans le pire des cas, mais il faut le faire avant que quelqu'un y aille, puis parce que ça sera pas de la même manière que ça va se passer. Donc, la communauté autochtone inuit qui est là comprend la nécessité, veulent quand même leur part du marché, soit la préservation de leur écosystème. Ils ont besoin de la chasse, de la pêche dans ce coin-là pour survivre, point. Sinon, tu n'as pas d'épicerie des fois dans un bizarre pendant plusieurs jours. Mais même au Nunavik, les discussions de Donald Trump, les discussions de ressources naturelles, d'invasion, etc., est un enjeu quotidien.
Donc, tu vois comment ça va loin. Et c'est surtout ce qui se passe présentement en termes géopolitiques. C'est le fait que la plus grande démocratie au monde fait maintenant affaire avec des régimes autoritaires. C'est ce qui est dangereux à l'heure actuelle sur l'échiquier international. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Yes, je commence avec des données qui sont sorties aujourd'hui en lien avec à quel point des Canadiens, des Québécois donnent des dons aux organismes de charité. Parce qu'on sait, pendant le temps des fêtes, c'est extrêmement important. C'est important en permanence, mais pendant le temps des fêtes, ça l'est encore plus. Puis malheureusement, d'année en année, on voit que le coût de la vie devient de plus en plus difficile pour tous les Canadiens, tous les Québécois. Puis on a moins de moyens financiers, puis ça se voit dans les données présentement. D'année en année, il y a de moins en moins de dons qui se font aux organismes de charité, à la fois au Canada et à la fois au Québec. On parle d'une baisse de 23% au Canada, puis une baisse de 15% au Québec. En 2013, c'était 22% des Canadiens qui donnaient à des organismes. On est maintenant à 17% en 2023, donc c'est une baisse de 5% en dedans de 10 ans, ce qui est quand même considérable. Là. Puis là, je tiens à le préciser, il n'y a rien qui vous oblige à donner. Je veux dire, tout le monde a des situations financières difficiles ces temps-ci.
Exactement.
C'est 100% comprenable, surtout pendant le temps des fêtes, il faut acheter des cadeaux et tout. Puis c'est difficile pour beaucoup de familles, puis on comprend ça. Par contre, c'est également important de dire puis de faire de la sensibilisation à propos de ça. Si vous avez plus de moyens que d'autres. Si vous avez des moyens de pouvoir aller donner, je veux dire, 10$, 20$, ça peut faire des grosses différences pour beaucoup de familles. Si vous avez les moyens de donner, ben, le temps des fêtes, c'est un très beau moment de le faire.
Oui, et parlant de donner également, c'est pas juste en monétaire, ça peut être en denrées. On a le conteneur ici, week-end, dans le stationnement du 815 Le Bourgneuf. Un gros conteneur jaune, vous ne pouvez pas le manquer, vous le voyez en rentrant. Allez déposer des denrées là, ça va être distribué à la Boucherie Généreuse et également au Patro Rocamado. C'est disponible jusqu'au 13 janvier prochain parce qu'après les fêtes, les gens ont également besoin de nourriture et normalement, le nombre de denrées diminue, surtout en raison là, de la température parce qu'on n'a plus de produits de nos agriculteurs. Alors, n'hésitez pas à aller donner. C'est des denrées non périssables que vous laissez justement dans le conteneur. Et c'est pas surprenant, cette baisse-là en philanthropie, parce que le coût de la vie est tellement élevé que les gens, bien, et puis c'est tout à fait normal, gardent leur argent pour eux et pour survivre avant tout.
Souvent, les grands donateurs, c'est ceux qui en ont bénéficié ou qui ont été sur le bord d'eux. Il y en a qui avaient la chance de donner quelques sous par année parce qu'ils ont été bénéficiaires de ça à un moment, qui vient de rebasculer. Ils viennent de rebasculer dans ceux qui doivent être aidés. Mm-hmm. Ça fait une grosse différence aussi, ça, dans
vraiment.
Le portrait de la ville.
Ah, vraiment? Puis que ce soit en termes de bénévolat ou de dons. Moi, je l'ai vécu dans les différentes banques alimentaires que j'ai travaillé sur des gens qui ont bénéficié du service. Puis après ça, plus besoin de service, mais viennent faire du bénévolat. Font un don, ça peut être un don de 30-40$ par année, mais font le don justement parce qu'ils disent « C'est important pour moi de redonner que vous avez été là pour moi dans un moment plus difficile. »
Un don de temps aussi, sinon.
Mais oui.
Si vous n'avez pas cet argent-là, vous êtes en vacances, un don de temps, ça fait une grande différence.
D'ailleurs, j'ai hâte, demain, je vais en faire du bénévolat à la Boucherie Généreuse.
Tellement belle idée le 24 avant le réveillon. Je te félicite.
On va aller fêter Noël avec les gens là-bas, puis après ça, on va se faire un petit réveillon. On est juste moi et ma blonde demain.
On a des données sur le tourisme qui sont sorties aujourd'hui. Puis pour la première fois de l'année, en fait, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a eu une hausse du tourisme américain vers le Canada en octobre. On a 1,8 million d'Américains qui se sont rendus de notre côté de la frontière. Donc, une hausse de 3% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même considérable. De notre côté, là, ça continue à baisser. Là, on parle d'une baisse de 26% des touristes canadiens vers les États-Unis, ce qui est énorme. Puis, ça fait extrêmement mal à l'industrie touristique partout aux États-Unis. Mais de notre côté, on voit que peu à peu, les Américains reprennent leurs habitudes puis viennent voir notre beau pays.
C'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est des États-Unis, oui, il y a le côté Donald Trump. On vient de parler du coût de la vie, Pascal. La différence entre le dollar canadien et le dollar américain fait aussi une très, très grande différence. Ouais. Je vais juste regarder, moi, dans le temps des fêtes, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire cet été? Ah, on va-tu à Wildwood? Non, on va-tu faire un petit tour à l'Orchard? On pourrait aller au Red Sox de Boston. Et quand je regarde le taux de change, ça risque d'être un petit prêt à camper dans un camping comme l'année passée qu'on a fait au Lac Mégantic et qu'on a adoré.
Ben, et exactement. Tu vas triper, tu vas en avoir trois fois plus pour ton argent finalement. Mais la bouteille, ben, tu vas pouvoir upgrader un peu sur ton vin.
C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, le coût de la vie vient faire en sorte que ça fait une grosse différence dans le choix des destinations. Fait que oui, du côté des États-Unis, il y a Donald Trump, mais n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, les familles de classe moyenne, comme moi, je suis, on n'a pas d'argent de trop. Là.
Non, pas du tout. Je te donnerai mon contact pour la pêche en haute mer sur le lac Ontario. Ça reste au Canada, c'est pas si loin.
Ah, ben oui.
À gang, ça coûte presque rien. Tu sors des grosses bêtes de saumon. Ça peut être une activité fun avec tes gars aussi.
Mais tu me donneras ça. Ça va me faire un immense plaisir.
On redécouvre notre coin aussi.
OK, oui.
On pourrait avoir un référendum dans quelques mois. Puis je parle pas au Québec. Parle en Alberta.
Oh.
Oui. L'agence électorale d'Alberta qui a approuvé une proposition de question référendaire. Question qui a été proposée par des promoteurs du projet, justement, Alberta Prosperity Project et son directeur général, Mitch Sylvestre. En gros, on a déposé la question. Maintenant que la question est approuvée, on a 4 mois pour amasser 178 000 signatures. C'est pas beaucoup. On a déjà, ce qu'on dit du côté d'organisme, là, on a déjà au moins 200 000 personnes qui avaient déjà dit « on va signer la pétition ». Fait que si on ramasse les 178 000 signatures demandées, Daniel Smith a dit en mai dernier qu'il allait avoir un référendum en Alberta. Donc, les probabilités sont quand même très élevées.
Vraiment.
Je vous lis la question qui a été déposée, puis on va se faire un peu de fun en la comparant à la question au Québec en 80. Parce que
parfait.
Du côté d'Alberta, visiblement, on est capable de
c'est
faire
simple.
Des questions.
Ah, vas-y donc.
Êtes-vous d'accord pour que la province de l'Alberta cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant? C'est dur de faire plus.
C'est clair, ça, Pascal.
C'est très clair.
Je deviens un pays, l'Alberta.
Exact.
Au Québec, 1980, ça devait être clair. René Lévesque, premier référendum. Pascal, normalement, on mettait ça clair pour le monde.
On embarque-tu dans le rap pour vrai? Là?
Ah, vas-y, vas-y.
Vous voulez que j'allise au complet?
Ils ont répondu?
Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir des relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada en une seule phrase?
C'était facile.
Tabarouette.
Ça, c'est avoir peur. C'est avoir peur d'avoir peur.
Contrôler le contrôle lui-même.
Ben ouais, non, mais on va se séparer, mais non, mais on va négocier avec le Canada, puis on va ci, puis on va ça. Non, mais on va se séparer, mais ça sera pas
c'est
grave.
Tellement sensible, ça. Hein?
Ah non, c'est fou, Red. Je veux dire, tu lis cette question-là, puis il y a tellement de points que n'importe qui s'y perd.
C'est ça.
Je veux terminer les nouvelles en faisant un tour rapide de ce qui sera ouvert et fermé au cours des derniers jours, des prochains jours.
Là, oui,
on va
très
le refaire,
bonne idée.
On va le refaire demain matin, mais on veut pas, on approche le temps des fêtes. En gros, demain, pas mal tout est ouvert. C'est juste que les magasins, SAQ, SQDC, etc., ça ferme à 17h. Donc, sensiblement, les mêmes heures qu'à l'habitude là, du côté du 24 décembre, parce que c'est un mercredi. Les bibliothèques, toutefois, qui seront fermées demain. 25 décembre, c'est là que plus d'affaires commencent à être fermées. Certaines pharmacies seront ouvertes, mais vérifiées parce que des pharmacies peuvent quand même décider de fermer. Les dépanneurs, certaines petites épiceries. Les transports en commun seront ouverts, mais du côté de Québec, pour le 25, c'est une horaire du dimanche, mais bonifié. Et pour le 26 décembre, c'est une horaire de dimanche. Donc, je vous conseille d'aller voir sur le site là, pour les transports, les heures d'ouverture, etc., etc. Les stations de ski seront ouvertes également. 25 pour les amateurs de ski. Salle de cinéma, normalement, c'est ouvert également. De même pour les églises, et évidemment. Ce qui est fermé, bon, ben, c'est tous les grands commerces, SAQ, SQDC, ainsi que les services de la ville. À noter également que les déchets ne seront pas ramassés le 25 décembre.
Pas juste dans les hôpitaux, ça.
Non, c'est ça, c'est sur la route.
Vous étiez là
également
ce matin, vous comprenez. Ouais, les coupeurs en santé.
Il a 912 de moyenne d'efficacité en carrière. L'année dernière, le 899 de moyenne d'efficacité, 2,93 de moyenne de buts accordés, 14 victoires en 24 départs. Je parle du gardien de but de 41 ans, Marc-André Fleury, qui, selon son agent Alan Walsh, serait sollicité par plusieurs équipes de la Ligue nationale pour quitter sa retraite et revenir au jeu. Et parmi les équipes, Pascal, il y a deux équipes canadiennes. Les Oilers d'Edmonton, parce que les Oilers viennent d'aller chercher le gardien de but Tristan Jarry, mais qui s'est blessé. Et on a un très gros problème devant le filet du côté des Oilers. Si on veut enfin acquérir la Coupe Stanley, ça prend un gardien de but. Et le Canadien de Montréal, qui voudrait un vétéran pour épauler un de ses gardiens de but avec les difficultés de Samuel Montembeault. Mathias, on rêve-tu un peu au Canadien pour Marc-André Fleury?
Mettons que je vais commencer par les Oilers rapidement. Là. C'est sûr qu'un Fleury
peut
être intéressant.
C'est un choix logique, les Oilers.
Présentement, avec la blessure à Jarry, t'as Ingram et Picard, que pour moi sont deux gardiens en qui tu peux pas avoir confiance du tout. Fait que c'est logique. C'est très logique. Mais du côté du Canadien, je pense que même pour Marc-André, ce serait la seule option qui pourrait peut-être le faire sortir de la retraite. Parce que Marc-André est sorti de la retraite pas parce qu'il n'y avait plus de niveau nécessairement, c'était par choix.
Mais non.
Mais de revenir avec le Canadien, de faire une partie de temps en temps quand l'équipe a besoin, puis ça permet à l'équipe de vraiment se débarrasser de Samuel Montembeault sans avoir peur qu'un des deux gardiens recrues soit un peu plus chambranlant, ça pourrait peut-être être une option intéressante. Est-ce que Marc-André voudrait? Ce serait complètement trippant en tant que partisan du Canadien, c'est sûr, de voir Marc-André Fleury avec le gilet du Canadien.
Un vétéran, Pascal, qui pourrait prendre soin des jeunes. Un Québécois qui pourrait parler aux journalistes, prendre la pression. On rêve aujourd'hui.
Il pourrait-tu te décevoir? Puis sans égard, je ne veux pas le froisser, mais tu sais, je veux dire, il était à la retraite.
C'est
il s'entraîne sûrement plus comme il s'entraînait quand il était au sein d'une équipe. Je comprends qu'on vénère ceux qui sont partis, mais...
faut pas s'attendre à un gros niveau de jeu. L'idée, ce serait vraiment d'avoir une roue de secours si jamais un des deux gardiens recrues, parce que sont jeunes, les gardiens, perdent un peu de confiance. Ce serait un peu ça, l'idée de pouvoir aller les épauler. Mm-hmm. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un gardien recrue sera devant le filet du Canadien ce soir, bien sûr. Du côté de Boston, c'est Jacob Fowler qui obtient son premier départ depuis son jeu blanc de samedi. Donc, ça va être un très gros match, très grosse rivalité à voir ce soir à partir de 19h du côté de Boston.
Oui, 19h sur les ondes d'RDS avec Pierre Houde. C'est le retour de Philippe Dano également dans l'uniforme du Canadien de Montréal, évidemment. On va faire un retour sur ce match. Demain, lors de l'émission, l'actualité ne prend pas congé de 7h à 10h le matin. Pascal CV, t'as aimé ta matinée?
J'ai adoré. Je suis contente de récidiver demain pour la journée du 24 avant les vacances.
Oui, demain. Soyez avec nous de 7h à 10h. Ça va être le réveillon de Noël version actualité ne prend pas congé. On va avoir entre autres Fernel Morisset qui va venir nous jaser.
En personne?
Oui, il va être en studio avec nous aux alentours de 8h20. Puis on va jaser politique puis plein d'autres choses parce que Fernel a des connaissances dans tout. J'aimerais ça être intelligent comme Fernel Morisset.
Oh, on est tous intelligents, mais à notre façon.
Yes, Mathias Turcotte.
Je veux dire, dans les sports, il y a personne qui te bat avec les statistiques, là, Jeff.
Ah, ouais, t'as raison. J'ai quand même une bonne... J'ai quand même une bonne force à cet endroit-là. Merci beaucoup, Pascal.
Lâche pas, il reste 2 minutes.
Yes, sir! Hey, merci pour les news, Mathias Turcotte. Yes. On s'en parle
demain. Toi, ta force est dans quel endroit? OK, bonne journée tout le monde.
J'ai été gêné par ton compliment. C'est comme ça.
Oh,
ça
m'arrive.
Yes. Bon, moi, toi, t'as eu un compliment.
Et voilà. Bonne journée. Meilleur podcast 50 ans de Pierre Houde qui s'en vient par la suite. Le Point de Max avec Max Larouche de 11h à 13h. Et ne manquez pas les meilleurs moments de Gravel dans le retour avec Audrey Pinchot. À 14h, nous, on se parle demain matin, 7h. Bye-bye, guys. Passez une belle journée sur les ondes de Boulevard. L'actualité ne prend pas de